l'a appelé la révolution des œillets. Une drôle de révolution. Ce sont des militaires qui la conduisent, mais des militaires progressistes, et pour certains d'entre eux, proches des communistes. Quelques mois plus tôt, il faut le rappeler, d'autres militaires ont pris le pouvoir au Chili, et ceux-là, qui ont imposé une dictature féroce, étaient loin d'être progressistes. Autre particularité, cette révolution a été fomentée par des officiers subalternes, des capitaines. Enfin, et ce n'est pas anodin, ces militaires portugais qui ont mis à bas un régime totalitaire vieux de presque un demi-siècle ne voulaient surtout pas faire couler le sang. Et si malgré tout il y a une poignée de morts, ils sont le fait d'une population qui a voulu se venger de la police secrète, la sinistre PIDE, principal bras armé de la dictature qui était à la fois une police politique et un service d'espionnage. Oui, curieuse révolution qui voit les habitants de Lisbonne descendre dans la rue et glisser dans les canons des fusils, des œillets, la fleur de ce mois d'avril au Portugal. La semaine passée, Monsieur X a évoqué les premiers soubresauts qui ont agité le pays et surtout l'armée dès la fin des années 50. L'odyssée épique du capitaine Galvan qui s'empare d'un paquebot de luxe et nargue le pouvoir pendant plus de 10 jours, puis la montée en puissance d'un opposant, le général Humberto Delgado, qui devient l'adversaire numéro un du régime et sera assassiné dans un guet-apens tendu par la PIDE. Mais Antonio de Oliveira Salazar n'en a pas terminé avec la grogne. Le ver est dans le fruit et la politique colonialiste qu'il entend poursuivre contre vents et marées finira par être fatale à son régime et à son successeur, Marcelo Caetano. Monsieur X revient donc cette semaine sur ces événements portugais, une histoire où rôde l'ombre des services secrets et où l'on retrouve même la présence tentaculaire des réseaux Gladio.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente y tu gesto de siempre será sin levantar huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan. Para un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad.
También será posible que esa hermosa mañana y el otro la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos surgiendo la verdad y limpie los caminos de siglos de destrozos contra la libertad.
Habrá un día en que todos al levantar la vida
tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
France Inter, rendez-vous avec X.
Le Portugal, petit pays de 10 millions d'habitants, était pourtant à la tête d'un des plus grands empires coloniaux de la planète.
Hein. Oui, toutes les possessions africaines.
Ouais, l'Angola, un territoire gigantesque, et le Mozambique, sur la côte orientale du continent, mais aussi la Guinée-Bissau et les îles du Cap-Vert, et des possessions indiennes dans Goa, enfin bref, un empire de 2 millions de kilomètres carrés qui faisait la fierté de ce pays de conquérant, même si le Brésil lui avait été arraché dès le 19e siècle. Jusqu'en 1974, les dirigeants portugais ont toujours eu une haute conscience de leur mission civilisatrice et de la propagation du catholicisme.
Ouais, mais cet empire craque dès le début de la deuxième moitié du XXe siècle.
Bah, forcément, le mouvement d'émancipation des colonies est mondial. Les unes après les autres, les puissances colonisatrices doivent concéder l'indépendance à leurs sujets outre-mer. Pour la France, c'est en 1960 qu'elle se sépare de ses dernières possessions africaines.
À l'exception de l'Algérie qui attendra 1962.
Oui, parce qu'elle était composée de départements français. Bah, enfin, ne nous éloignons pas.
D'accord.
Le Portugal, donc, résiste et il doit faire face à des rébellions armées qu'il réprime sans pitié. On estime alors que plus de 150 000 soldats portugais sont mobilisés dans ces colonies où ils conduisent une sale guerre, comme le sont toutes les guerres coloniales.
Ouais, 150 000 soldats pour un petit pays, c'est énorme.
Ouais, hein. Et d'autant que le Portugal est alors victime d'une véritable évasion démographique. Les habitants, pour la plupart des jeunes gens, quittent alors leur pays par centaines de milliers pour fuir la misère et leur incorporation dans l'armée. Il faut savoir qu'en 1968, pour pallier cette évasion, la durée du service militaire passe à 4 ans.
Ce qui accroît encore ce mouvement de fuite.
Évidemment, l'obstination des autorités portugaises, les exactions qui sont quotidiennement commises dans les colonies valent au Portugal une condamnation unanime de la communauté internationale. Et elles exacerbent le mécontentement, tant dans la population que dans l'armée, où se lève une génération de jeunes officiers qui veulent en terminer avec ces guerres d'un autre âge. Mais si vous voulez bien, nous allons y revenir.
Ouais, ouais.
Un mot rapide avant sur le régime politique portugais.
Ouais, je vous écoute là.
En 1926, le Portugal est encore une république parlementaire, mais le système est à bout de souffle, miné par la corruption, le laisser-aller. Il est bientôt renversé par un coup d'état militaire. On passe les détails, mais enfin, peu à peu émerge un homme qui va s'emparer du pouvoir.
Oui, Salazar.
Bien sûr.
C'est pourtant pas un militaire, lui.
Non. Antonio de Oliveira Salazar est professeur d'économie. Nommé ministre, il rétablit les finances publiques et en 1933...
L'année où Hitler prend le pouvoir.
Oui, donc cette année-là, Salazar devient président du Conseil et instaure ce qu'il appelle l'État nouveau. Une nouvelle constitution est promulguée. À côté d'un président de la République aux ordres et d'une assemblée qui ne dispose d'aucun pouvoir, Salazar peut régner en maître sur le pays. Le credo de ce catholique rigide et austère se résume à 5 mots. Dieu, patrie, autorité, famille et travail.
On n'est pas loin de Vichy, là.
Vous avez raison. Ce nouveau pouvoir autoritaire s'appuie donc sur l'Église, l'armée, une police secrète omniprésente et des syndicats corporatistes.
S'agit-il pour autant de fascisme ?
Il y a incontestablement des ressemblances. Le parti unique, l'absence de liberté, la censure, la chasse aux opposants, surtout les communistes, l'anti-parlementarisme. Mais il n'existe pas de milice armée comme les SS ou les chemises noires, non. Je crois qu'il faut plutôt parler d'une dictature ultra-conservatrice imprégnée d'intégrisme catholique.
La différence me semble quand même un peu mince.
Sans doute, mais c'est au moment de la Seconde Guerre mondiale que Salazar très habilement va se différencier. Au lieu de faire cause commune avec les puissances de l'Axe, dont il se sent très proche, au moins par les idées, il choisit la neutralité. Mieux. Avec le soutien des Britanniques, il conseille à Franco d'adopter la même attitude.
Ce que fera effectivement le dictateur espagnol.
En outre, à partir de 1942, c'est-à-dire lorsque le vent semble souffler en faveur des alliés, Salazar leur permet d'utiliser les Açores comme base militaire. La conséquence, c'est que le dictateur sort sans encombre de la guerre. Soutenu par les anglo-saxons, il va même bénéficier des largesses du plan Marshall et être associé à la création de l'OTAN en tant que membre fondateur.
Le Portugal est dès lors solidement ancré à l'ouest.
Et en cette période de guerre froide, la politique résolument anticommuniste de Salazar est appréciée au plus haut point à Washington. Et ces liens très étroits ne s'affaibliront un temps que sous Kennedy, qui critiquera le colonialisme portugais.
Le régime de Salazar connaît pourtant les premières difficultés à la fin des années 50.
Oui, oui, même s'il a connu quelques difficultés auparavant. Mais vous avez raison, allons vite. Le général Delgado, brillant officier, longtemps partisan de Salazar, émerge comme son principal opposant. Inutile d'insister, puisque nous en avons longuement parlé la semaine dernière.
Ouais, et puis ensuite, il y aura l'aventure du capitaine Galvan et de la Santa Maria.
Oui, cela démontre qu'un véritable malaise se développe au sein des forces armées. Avant même l'affaire de la Santa Maria, des conjurés militaires ont tenté un coup d'État en 1959. Puis en 1961, c'est le ministre de la Défense lui-même qui fomente un complot. Et quelques mois plus tard, le général Delgado essaie à son tour de soulever plusieurs garnisons.
Mais en vain.
Oui, mais Salazar ne doit qu'à la PIDE, sa police secrète, de pouvoir déjouer toutes ces conjurations.
Mais le régime commence à vaciller, hein, c'est bien ce que vous voulez dire.
Il est en difficulté, oui. D'autant qu'il subit un autre coup très dur. À la fin de 1961, l'armée indienne met fin à l'occupation coloniale des comptoirs du Portugal. C'est une véritable humiliation pour le pouvoir, mais aussi pour une partie de l'armée.
Oui, l'Empire est débranché.
Oui, et bientôt la rébellion va se développer comme un feu de brousse dans toutes les colonies africaines où des mouvements de libération, généralement marxistes et soutenus par les pays de l'Est, prennent les armes contre le colonisateur. Les combats sont de plus en plus violents et de nombreux militaires portugais tombent ou sont blessés. Plusieurs dizaines de milliers. En même temps, les populations blanches ne sont pas épargnées, bien entendu. Quant aux victimes de la répression, elles sont innombrables.
Ouais. D'où un malaise grandissant dans l'armée.
Naturellement. Mais avant d'aborder ce point essentiel, puisqu'il est à l'origine de la révolution des œillets, je voudrais quand même insister sur un point assez peu connu. Donc, dernière puissance coloniale, le Portugal devient une sorte de symbole pour tous les extrémistes de droite.
Il est nostalgique de la période coloniale.
Bien sûr, ouais. Pour beaucoup de ces gens-là, soldats perdus, monarchistes, intégristes, néo-nazis, Salazar demeure le dernier défenseur de l'Occident chrétien. Arrive donc au Portugal toute une faune extrémiste qui entend concourir à la préservation des valeurs traditionnelles. Certains même s'engagent comme mercenaires, d'autres travaillent en liaison étroite avec la PIDE. Un Français en particulier, un certain Guérin Serac, un ancien de l'OAS, crée une curieuse agence de presse au Portugal, Aginter.
Pourquoi curieuse?
Parce que si elle diffuse effectivement des informations, elle fonctionne plutôt comme un réseau qui relie plusieurs mouvements européens d'extrême droite. Aginter sera ainsi impliqué dans la stratégie de la tension créée de toutes pièces en Italie.
Et à commencer par les attentats très meurtriers de l'extrême droite.
Oui, oui, des attentats d'abord attribués aux anarchistes, mais dont on apprendra plus tard qu'ils ont été perpétrés par des organismes néofascistes, avec la complicité des services secrets et des membres du fameux réseau Gladio.
Oui, Gladio, cette toile d'araignée inspirée par la CIA et qui couvre une bonne partie de l'Europe.
Exactement. Destiné au départ à contrer une éventuelle invasion soviétique, Gladio, c'est-à-dire le glaive, est peu à peu devenu une officine clandestine anticommuniste qui n'hésite pas à courir à la violence. Rappelez-vous l'affaire des tueurs fous du Brabant.
Ah, oui, oui.
Gladio n'est certainement pas tout à fait étranger à ces massacres.
Ouais. Il se crée donc à travers Gladio, à travers aussi cette étrange agence de presse, une sorte, comment dirais-je, d'international noir.
Oui, oui, et il est tentant pour certains services d'utiliser sa force de frappe ou de pénétration.
Mon muse, ma complice, petite sœur d'exil, tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili, la guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Aux quatre coins du monde, des frères ennemis s'explique par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal,
dealer canneillé rouge a fleuri au Portugal. Pour tous les camarades, pour chasser dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Je vois comme une flamme qui éclaire l'avenir. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Ô muse éternue fade, ô mine naïve gentille, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não sei tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Réchauffe les pétales de mille fleurs vermeilles en avril au Portugal. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal.
France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
À la suite de cet entretien, je me suis reporté à l'affaire Gladio de Jean-François Brezu-Gentil, publiée par Albin Michel. Voici ce que j'y lis à propos de l'agence Aginter. L'internationalisation des règles de la guerre psychologique par le canal de l'agence française s'effectue à travers une multitude de fiches de contact qui met Aginter au fait de la pyramide subversive qui tourmente l'Europe des années de plomb. Outre les relations régulières qu'entretient Aginter en Belgique, d'autres pays font appel aux services de l'agence. Parmi ces fiches de contact, l'une fait référence à une correspondance italienne, l'agence Oltremare, officine animée par deux personnages hauts en couleur dans la stratégie de la tension italienne, Giorgio Torchia et Gino Agnese, présent dès le 3 mai 1965 au séminaire de la subversion italienne. Cette conférence signe l'acte de naissance de la guerre révolutionnaire en Italie. Elle retient l'héritage OAS et la définition Aginter de l'action psychologique, l'alliance du glaive et du faisceau contre le spectre stalinien. L'action psychologique est une arme des temps de paix qui a pour tâche de conditionner la population associée au terrorisme, elle devient une arme de guerre. Ces services secrets là, qui ont travaillé avec Aginter et donc avec Lapide, qui sont-ils?
Ne parlons que de la France. Le SAC, c'est certain, a entretenu des relations avec Aginter.
Ben voyons.
Ce service d'action gaulliste très spécial a souvent flirté avec l'extrême droite. Et le SAC a donné un coup de main lorsqu'il s'est agi de surveiller les Portugais qui avaient choisi de s'installer chez nous.
Ouais, et qui pouvaient se livrer éventuellement à des activités politiques?
Bien sûr. Mmh. Mais même notre service de renseignement officiel, le SDEC, a collaboré à l'occasion avec Lapide. Au Congo-Brazzaville, par exemple, lorsqu'il s'est agi de soutenir la sécession katangaise. Ou encore en Guinée. Les Portugais voulaient se débarrasser du mouvement de libération créé par Amilcar Cabral en Guinée-Bissau. Et les Français, en les aidant, entendaient renverser du même coup dans la Guinée voisine le président Sékou Touré, coupable de rejeter le néocolonialisme de notre pays.
Un coup de billard, quoi. Mmh. Je pense que
Focard n'a pas été tout à fait étranger à cette initiative.
Focard qui avait la haute main sur les services secrets.
Oui, et qui était aussi l'un des fondateurs du SAC. Hein.
J'ajoute, et l'on en terminera avec ce chapitre, que le SDEC permettra à l'un des dirigeants de la PIDE, celui-là même qui a présidé à l'assassinat du général Delgado, de trouver refuge en France après la révolution des œillets.
Ben, la transition est toute faite, hein. Venons-en à ces événements d'avril 1974.
Et évoquons d'abord de façon plus précise ce qui se passe dans l'armée.
Ouais, ce malaise.
Oui, de plus en plus, les militaires, surtout les officiers subalternes qui se battent sur le terrain, ont le sentiment de mener une guerre inutile dans les colonies.
Ouais, une guerre promise à un échec.
Oui, qui sera de toute façon incapable d'empêcher à terme que ces colonies deviennent indépendantes. Un échec qui se traduira par une nouvelle humiliation pour l'armée. Il y a en outre le fait que ces capitaines ont l'impression qu'on les force à se salir les mains en utilisant des méthodes dégradantes.
Ouais, la torture, les exécutions sommaires...
Oui, oui, et encore aujourd'hui, ces officiers répugnent à parler de ce qu'ils ont vécu en Angola ou ailleurs. Pourtant, ils ont un espoir en 1968. Salazar est frappé par une attaque cérébrale et gravement diminué. Il doit quitter le pouvoir. Son successeur, Marcelo Caetano, semble décidé à infléchir la politique suivie jusqu'alors par Salazar, à la fois sur le plan intérieur et dans les colonies.
Quoi, un assouplissement ?
C'est ça, oui. Mm-hmm. Une dictature plus libérale, si on peut le dire. Un allègement de la censure, par exemple, ou encore la permission donnée à certains exilés, comme par exemple le socialiste Mario Soares, de revenir au pays. Le résultat presque inévitable, c'est que l'opposition se sent requinquée. Les étudiants s'agitent, les ouvriers manifestent, et les élections législatives de 1969 voient la victoire de la gauche. Aussitôt, Caetano change radicalement et en revient aux bonnes vieilles méthodes de la dictature façon Salazar.
Mais vous m'avez dit quand même que la politique coloniale avait aussi évolué.
C'est juste. En apparence, en tout cas, Caetano ne met plus en avant la défense à tout prix de l'Empire, mais justifie la continuation de la guerre par la protection qu'il doit à la population blanche.
Ah ouais.
En même temps, il laisse espérer un début d'autonomie pour les provinces africaines, mais c'est une tromperie. En réalité, la guerre coloniale continue toujours aussi impitoyable.
Donc, fondamentalement, rien ne changeait avec la période Salazar.
C'est exact. Mais pour tous les observateurs, il est évident que la marmite devra exploser un jour ou l'autre. La paysannerie, qui représente presque la moitié de la population, est toujours plus pauvre et continue à être exploitée par les grands propriétaires. L'économie est quasi autarcique et le Portugal tout entier semble figé dans l'archaïsme.
Ouais. Mais devant le raidissement du pouvoir, quelle forme peut prendre la contestation ?
Le salut ne peut venir que de l'armée. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas que les pays amis comme les États-Unis, par exemple, conscients de la dégradation de la situation portugaise, poussent certainement à la roue du changement, même s'ils se trouveront rapidement dépassés par l'ampleur du mouvement.
Et vous pensez que les Américains ont pu jouer un rôle actif dans le déclenchement de la révolution ?
Bon, je suis à peu près sûr qu'ils ont suivi de près l'évolution d'un homme qui va être un des acteurs principaux des événements de 1974.
De qui voulez-vous parler, là ?
Le général Spinola. Cet officier est pourtant loin d'être un révolutionnaire. Aristocrate, résolument conservateur, Spinola était très longtemps un partisan de Salazar. Et en 1973, il est encore gouverneur et commandant en chef des armées en Guinée-Bissau. À ce titre, il a quand même pris l'initiative de prendre langue avec les rebelles dirigés par Amilcar Cabral.
Ouais. Est-ce que c'est une initiative personnelle ?
Oui. Oui, et ça ne plaît guère à Lisbonne. Cabral sera d'ailleurs bientôt assassiné par la PIDE. Quoi qu'il en soit, Spinola a compris lui aussi que la guerre ne pourrait pas être gagnée sur le terrain et il est partisan d'une solution négociée. Le successeur de Salazar, Marcelo Caetano, commet alors une grossière erreur. Sans doute pour calmer Spinola ou pour juguler sa volonté d'en finir avec la guerre, il le rappelle à Lisbonne et le nomme à l'état-major des armées.
Mmh. Ah, le loup dans la bergerie ?
C'est à peu près ça, oui. Car le général a entrepris la rédaction d'un livre où il rassemble ses idées sur la question coloniale, c'est-à-dire la reconnaissance pour les peuples africains du droit à l'autodétermination et le rassemblement des anciennes colonies autour d'une vaste fédération au sein d'un ensemble portugais.
Une sorte de communauté à la sauce portugaise.
Oui, c'est ça. Alors, le livre de Spinola est publié au début de l'année 74 et obtient un énorme succès. Le gouvernement est furieux et le général ne tarde pas à être démis de ses fonctions officielles. En mars 74, je crois.
Un mois avant la révolution.
Dans le même temps, la grogne des capitaines a grandi. Dès 1973, plusieurs dizaines d'entre eux se sont rassemblés sur des revendications d'abord purement corporatistes.
C'est-à-dire ?
L'augmentation de leurs soldes, par exemple, ou encore leur aspiration à être mieux reconnus par la nation. Mais très vite, se référant aux idées naguère défendues par le général Delgado, il passe à une opposition de nature plus politique et même révolutionnaire.
Une orientation très à gauche.
Oui, certains sont très proches des communistes et envisagent déjà ouvertement le renversement de la dictature. Et c'est ce que préconise un manifeste distribué dans les casernes et signé par un groupe clandestin, le MFA, Mouvement des Forces Armées. Et dès la mi-mars 1974, un régiment d'infanterie se soulève en se réclamant à la fois du MFA et du général Spinola. Mais cette initiative est encore prématurée. Les rebelles parvenus jusque dans les faubourgs de Lisbonne choisissent sagement de rebrousser chemin.
Ouais, au fond, c'était une sorte de répétition, quoi.
Oui, mais enfin, désormais, tout est en place.
Ouais. Ce qui m'étonne, c'est que la police politique, la Lapide, s'y présente dans tout le pays.
Et qui disposait de milliers d'informateurs.
Oui, raison supplémentaire. Alors, n'a-t-elle rien vu venir,
hein? En Allemagne de l'Est, la Stasi non plus n'a rien pu faire pour empêcher la destruction du mur de Berlin. Je crois qu'il y a un moment où un pouvoir policier, aussi redoutable soit-il, est condamné à l'impuissance face à la volonté populaire.
Et à la force des armes, tout de même.
Bah, vous avez raison. Alors la suite, vous devez vous en souvenir.
Rafraîchissez-moi quand même la mémoire.
Le 25 avril 1974, à minuit et demi, sur Radio Renaissance, une radio catholique qui a pris le parti de la contestation, on entend une chanson interdite. C'est le signal qu'attendent les capitaines du MFA. Avec leurs blindés, ils prennent aussitôt la route en direction de la capitale portugaise.
La révolution est en marche.
Oui, au sens propre comme au sens figuré. Et désormais, rien ne pourra l'arrêter.
France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X.
Dans son histoire du Portugal, paru chez Fayard en 2000, Jean-François Labourdette évoque l'action du général Spinol. Je le cite. Avec l'approbation du chef d'état-major général Costa Gomes, il avait pris l'initiative de pourparler avec les rebelles afin de s'entendre sur une solution négociée en Guinée, où il commandait. Mais Marcelo Caetano avait durement censuré cette tentative. Il voulut cependant ménager Spinola car il craignait d'autant plus un coup d'état militaire que les capitaines commençaient à s'agiter sérieusement. Aussi, au retour du général dans la métropole au cours de l'été 1973, créa-t-il pour lui la charge de vice-chef de l'état-major général des forces armées. Ne mesurant pas le retentissement qu'il pourrait avoir, il laissa publier son livre « Le Portugal et l'avenir ». Quand il lut, entre autres, que Spinola appelait les généraux à prendre le pouvoir pour mettre fin à la guerre, il le limogea ainsi que Costa Gomes. Les deux généraux lui répondirent par des protestations de fidélité et s'engagèrent à s'abstenir de toute action illégale. Sentant que les forces armées lui échappaient, le président du Conseil n'osa pas aller plus loin. Il n'avait pas pris conscience que par son livre, Spinola avait donné le feu vert au mouvement des capitaines dont il légitimait la révolte et que son indulgence envers les deux généraux ne pouvait que les encourager. Quand il décida de sévir contre Costa Gomes et Spinola, il leur donna le prétexte pour agir.
Ce que voulaient éviter par-dessus tout les capitaines, c'était que le sang coule. Aussi, alors que les blindés allaient entrer dans la capitale, au petit matin, ils lancent un appel radio aux Lisboètes, en leur demandant de rester calmes et de demeurer chez eux. Mais la curiosité, l'enthousiasme aussi, ont été les plus forts. Et tandis que les chars entouraient les principaux points stratégiques, ministères, radio, télévision, les habitants se sont répandus par dizaines de milliers dans les rues.
Et la distribution des œillets a commencé.
Oui, l'œillet, fleur symbole du printemps portugais.
Et il n'y a eu aucune tentative de résistance du pouvoir?
Aucune, non. Caetano, réfugié dans une caserne, a bien pensé à un moment ordonner à une frégate qui croisait sur le Tage de bombarder une place de la capitale, mais les marins ont refusé d'obéir. Et le soir même, il a remis sa démission entre les mains du général Spinola.
L'homme qu'il venait de démettre.
Et le militaire que les capitaines avaient choisi pour les représenter.
Ils avaient choisi une vitrine très respectable.
Certainement. Spinola, général portant monocle et militaire de tradition, était susceptible d'inspirer confiance aux franges conservatrices et aussi à l'Église. En outre, depuis la publication de son livre, il était devenu très populaire.
Pourtant, attendez, politiquement, Spinola est aux antipodes de ses capitaines révolutionnaires et même marxistes.
Et le divorce ne tardera pas à survenir. Spinola offrait aussi un autre avantage. Il était à même de rassurer les pays occidentaux.
Alors justement, on va revenir à cette question des États-Unis, là. Est-ce qu'ils n'ont pas joué un rôle là, dans tout ça?
Écoutez, je n'en ai pas la preuve, mais je suis à peu près sûr que Spinola ne s'est pas lancé dans l'aventure sans avoir reçu des assurances et peut-être des encouragements. À Washington, on savait que la dictature était condamnée à terme. Un Spinola à la tête de la junte offrait la garantie que le nouveau régime ne basculerait pas dans le camp soviétique. Bah, si vous voulez bien, on continue. Mm-hmm. Hein. Donc, les seules violences de ce 25 avril 1974 éclatent devant l'immeuble de la DGS, l'ancienne PID.
Oui, police politique. C'est le symbole honni de la dictature.
Bien sûr. Mm-hmm. Et la foule assiège le bâtiment et veut prendre à partie les centaines de policiers qui s'y sont réfugiés. Affolés, certains agents de la police secrète tirent sur la foule. Il y a quelques morts, 6, je crois. Des militaires doivent intervenir et le lendemain matin, les policiers sont désarmés. Mais l'affaire est plus importante qu'il n'y paraît.
Ah bon? Pour quelle raison?
Bah, certains des manifestants veulent très légitimement se venger. Mais d'autres sont surtout intéressés par les archives de la PID. Et à plusieurs titres. On peut y trouver les dossiers des milliers d'informateurs de la police secrète, mais aussi la PID étant également un service de renseignement de précieuses informations sur la collaboration des espions portugais avec leurs homologues occidentaux.
Vous voulez dire que, c'est un exemple peut-être, que les agents communistes pouvaient être désireux de mettre la main sur ces archives?
Ben, naturellement. C'est ce qui se passera plus tard dans l'autre sens avec les archives de la Stasi.
Ouais. Le rassemblement des manifestants devant l'immeuble de l'ancienne PID n'était donc pas aussi spontané qu'on l'a pensé.
C'est ce que je crois, oui. Même si encore une fois la colère des Lisboètes s'expliquait très bien. Dès le lendemain, Spinola apparaît à la télévision, déclare que le temps du salazarisme est terminé et annonce la mise en place de la démocratie.
Mmh. En attendant, ce sont les militaires qui gouvernent.
Sous l'autorité du général Spinola, qui est nommé président de la République par la junte. La suite, comme vous le savez, est assez chaotique. Très vite, il se révèle qu'il existe deux camps. D'une part, il y a les modérés, partisans de fonder une démocratie parlementaire classique.
Et parmi eux se trouvent les socialistes de Mario Suárez, hein.
Oui, et de l'autre côté, il y a les communistes et une partie notable des capitaines du MFA qui prônent une démocratie directe et puis l'instauration d'un système révolutionnaire à même d'ordonner des nationalisations et une réforme agraire radicale.
Le partage des terres.
Une réforme indispensable, tant le système agricole est encore quasi féodal. Et finalement, les deux camps ne sont à peu près d'accord que sur un seul point. Il faut crever l'abcès colonial et accorder l'indépendance à l'Angola, au Mozambique et à la Guinée-Bissau. Et ça va se faire très rapidement. Fin 1975, il en sera fini de l'empire colonial portugais.
D'accord, mais alors revenons à la compétition entre ces deux camps.
Le premier gouvernement provisoire est dirigé par un colonel qui est un compagnon de route du Parti communiste. Il s'érige aussitôt en gardien de la révolution et ça ne va pas sans provoquer de sérieux tiraillements avec le conservateur Spinola. Spinola qui en appelle à la majorité silencieuse, comme on dit. Mais la manifestation organisée par ses partisans tourne au fiasco. Le général en tire donc la leçon et démissionne, non sans promettre à son pays les pires catastrophes. Toutefois, il ne se résigne pas.
Et que peut-il faire, hein?
Bah, au mois de mars suivant, il tente un coup d'État, nouvel échec. Spinola est définitivement hors jeu et s'enfuit à l'étranger. Les capitaines du MFA triomphent. Désormais, c'est un conseil de la révolution qui détient la réalité du pouvoir. Mais un mois et demi plus tard, les Portugais sont appelés à élire une assemblée constituante. Et surprise, ce sont les partis modérés qui l'emportent largement.
Il y a les socialistes.
Et aussi les centristes. Le parti communiste ne rassemblant qu'un peu plus de 10% des voix. Dans un premier temps, cet échec de l'extrême gauche ne refroidit pas les ardeurs des capitaines qui contrôlent toujours le gouvernement provisoire. Ah. Mais la division a bientôt gagné leur propre camp.
Alors, toujours entre révolutionnaires et modérés?
Oui, la situation devient quasiment insurrectionnelle et on assiste à de nombreux mouvements sociaux.
Est-ce que les communistes, malgré leur échec électoral patent, ne sont pas tentés par un coup de force avec l'appui des capitaines les plus radicaux?
Non, même si certains s'évertuent à agiter cet épouvantail, mais n'allons quand même pas trop vite, je vais revenir sur cette question.
Ah, un peu de suspense peut-être.
Allons, monsieur Penaud. Bon, en tout cas, il faut résoudre la crise. Le gouvernement provisoire suivant est composé de modérés. Et pour en terminer avec l'agitation sociale entretenue par les communistes et les gauchistes du MFA, les nouveaux dirigeants prennent une décision spectaculaire. Ils démettent de son poste de gouverneur de la région de Lisbonne le plus flamboyant des officiers contestataires, le général Otelo de Carvalho, qui est aussi la figure de proue du Conseil de la Révolution, un militaire très influencé par la Révolution castriste.
Ouais, je me souviens, mais ce Carvalho-là n'est pas un peu tendance à se prendre pour un nouveau Fidel Castro?
C'est ce que ses détracteurs ont prétendu, en tous les cas.
Un homme très populaire, hein.
Incontestablement. Il représente à lui tout seul le symbole de la Révolution, ce fol enthousiasme qui a saisi les Portugais au cours de ces journées inoubliables d'avril 1974. Donc, Carvalho est démis. Mais il n'est pas du genre à s'incliner aussi facilement.
Et d'abord parce qu'il compte de nombreux partisans, c'est ça?
Ah oui, dans les forces armées, bien sûr. Mais aussi dans la population. Alors, fin novembre 75, il essaie de lancer les militaires progressistes qui lui sont acquis à l'assaut du pouvoir. Mais comme plus tôt le général Spinola, il échoue. Arrêté, il est condamné un peu plus tard à 2 mois de prison.
Peine très légère, hein?
Oui, mais il n'y a pas eu de combat, seulement une épreuve de force pacifique. Encore un peu plus tard, le commandant Carvalho, car il a été rétrogradé, sera candidat à l'élection présidentielle et obtiendra un score très honorable. Puis dans les années 80, il sera accusé d'avoir créé un mouvement oppositionnel armé et sera très sévèrement condamné.
Oui, à plusieurs années de prison.
Oui, en tout cas, l'échec de ce personnage très charismatique sonne la fin de la révolution. La mise au pas du mouvement des forces armées et la marche vers une démocratie tranquille. Et après l'élection à la présidence de la République du général Eanes, l'élaboration d'une constitution et des élections législatives qui confirment la prééminence des socialistes, Mario Soares est investi à la présidence du Conseil.
Ouais. Et un peu plus de 10 ans après la révolution des œillets, seulement 10 ans, le Portugal rejoindra la communauté économique européenne.
Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Alors, vous m'avez promis de revenir sur la question des communistes.
À un moment ou un autre, le parti dirigé par le très stalinien Alvaro Cunhal a dû être tenté de s'imposer par la force.
Oui, parce que dans les urnes, il était minoritaire.
C'est vrai. Mais les communistes comptaient de nombreux sympathisants dans l'armée. Et après tout, Lénine aussi était minoritaire. Il n'a pas empêché de s'imposer par la force. Mais il y avait un premier obstacle de taille. Ces capitaines qui avaient renversé la dictature n'étaient pas vraiment prêts à accepter un nouveau pouvoir totalitaire, fût-il de gauche. Et le deuxième obstacle, encore plus important, est international.
Ah, je vois où vous voulez en venir, là, les États-Unis.
Bien évidemment. Les Américains ont mis tout leur poids dans cette affaire car il n'était pas question d'accepter un Portugal communiste. Le Portugal devait rester dans le camp occidental. Je suis sûr que pendant tous ces mois où la situation pouvait basculer dans un sens ou dans l'autre, que la CIA n'est pas restée inerte.
Hein. Ah oui. Et les soviétiques,
alors? Oh ben, eux, ils se sont inclinés. D'abord parce que le Portugal était trop loin de chez eux. Ils n'ont donc fait aucun effort particulier pour aider leurs camarades portugais.
Confirmation de cette thèse est donnée par l'avertissement donné au Kremlin par Henry Kissinger au cours d'un discours prononcé en août 1975, c'est-à-dire à un moment où l'on pouvait encore penser que l'extrême-gauche était en mesure de l'emporter au Portugal. Je le cite. L'URSS ne doit pas prétendre à la faculté d'influer directement ou indirectement sur les événements, contrairement au droit du peuple portugais de déterminer son propre avenir. L'intervention dans ce sens de puissance extérieure à ce pays, qui est un ami et un allié de longue date des États-Unis, est incompatible avec tous les principes sur lesquels repose la sécurité de l'Europe. Il viendra un moment où nos alliés européens et nous-mêmes devrons nous demander si une influence communiste prépondérante au sein d'un gouvernement est compatible avec l'appartenance à une alliance ayant pour objet de résister à l'agression communiste. À samedi prochain, je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission et nous écrire sur franceinter.com.